Chapitre 1 La rencontre du Seigneur 18e dimanche après la Pentecôte. Pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. La messe du 18e dimanche après la Pentecôte est de création plus tardive que les autres. Primitivement, les samedis des quatre temps donnait lieu à une vigile nocturne qui se terminait à l'aube du dimanche après la célébration de l'Eucharistie. Lorsque cet usage eut disparu, l'ancienne messe du dimanche matin demeura fixée au samedi et de nouvelles messes furent composées pour les dimanches après les quatre temps. Celle-ci, qui suit les trois jours pénitentiels de l'automne, contient tant d'allusions aux prêtres ordonnés la veille que si l'on désirait un jour doter la première messe des nouveaux prêtres d'un texte spécial, on n'en trouverait pas de mieux approprié. Elle n'en rentre pas moins dans le cadre de la préparation au retour de Jésus-Christ. Dans le cantique d'entrée, nous prions le Seigneur d'apaiser le désir de ceux qui espèrent en lui, en réalisant pour son peuple les prophéties qui annoncent la manifestation de sa gloire. Quand la terre aura fini pour nous son office, nous la quitterons sans regret. C'est dans la joie que nous nous écrirons. Nous allons dans la maison du Seigneur. La fonction liturgique de ce jour nous transporte au seuil du ciel pour nous indiquer à quelles conditions et par quels moyens nous y pénétrerons. En les méditant, nous reconnaîtrons que chacune de nos messes dominicales est une étape sur la route qui nous conduit au ciel. Tous les dimanches, près de cet autel, nous venons rencontrer sous les voiles eucharistiques le Seigneur qui, dans l'éclat de sa gloire, viendra nous chercher pour nous introduire dans le royaume éternel de Dieu. L'Épître formule comme condition indispensable de notre salut que nous soyons trouvés irréprochables au jour du Seigneur. La Bible latine ajoute un mot d'explication, au jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Précisons d'abord le sens de cette expression. Les premiers disciples de Jésus vivaient dans l'espoir que le Seigneur remonté au ciel ne tarderait pas à revenir sur la terre, achever lui-même son œuvre et fonder le monde nouveau qui serait définitivement le royaume de Dieu. Ils présumaient que son retour s'effectuerait au milieu de la nuit. Matthieu, chapitre 25, verset 6, qui précède le premier jour de la semaine, ce jour sacré où Jésus était ressuscité d'entre les morts, le jour aussi où le Saint-Esprit s'était répandu sur son Église. Ne fallait-il pas, suivant la recommandation de la parabole, Luc, chapitre 12, verset 35, qu'à l'heure où le Maître reviendrait, il les trouva rassemblés, c'est le sens du mot « ecclésia », l'attendant debout, prêt à le suivre. Cette espérance est au point de départ de la toute première organisation du culte chrétien. Chaque samedi soir, quand le repos sabbatique est terminé, les frères se réunissent pour une veillée de prière pendant laquelle ils se préparent au jour tant souhaité de la parousie que, par antonomas, ils appellent le jour du Seigneur. Au terme de la sainte vigile, ils réitèrent ensemble le repas du Seigneur qui est en même temps un mémorial et une anticipation. Toutes les fois qu'il renouvelle ce repas, comme l'écrit saint Paul dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 26, il commémore la mort du Seigneur, mémorial, jusqu'à ce qu'il revienne, attente. L'Eucharistie relie le sacrifice rédempteur de Jésus à sa parousie. Le sacrifice du Sauveur s'est achevé par sa résurrection, et l'Eucharistie est le gage de leur propre résurrection. Elle les aide à attendre le retour du Christ. La doctrine n'a pas varié depuis ses origines. Aujourd'hui encore, notre messe est comme une parousie voilée. Notre dimanche est toujours le jour du Seigneur, dies dominica, le jour où nous nous réunissons pour nous souvenir ensemble du Seigneur Jésus et pour attendre son retour. Mais parce que le jour où il se manifestera dans sa gloire, le Sauveur jugera le monde, l'expression « jour du Seigneur » est devenue aussi dans le langage de saint Paul synonyme de jugement, au point que ce mot « jour » lui sert parfois à désigner un tribunal humain. L'apôtre rappelle donc aux chrétiens qu'il a évangélisé que lorsqu'ils comparaîtront au tribunal du Seigneur, aucune accusation grave ne devra peser sur eux. Or, pour être alors trouvés irréprochables, ils ont encore de sérieux efforts à accomplir. En effet, dans le cours de sa lettre, Paul n'adresse pas que des éloges à la jeune église de Corinthe. Qu'ils ne perdent pas courage cependant, car ils ont reçu de Dieu tous les dons nécessaires, et de plus le Seigneur Jésus les affirmera lui-même, afin qu'au terme de leur vie terrestre, ils n'aient pas à encourir ses reproches. Ces quelques lignes de saint Paul nous prémunissent également contre la présomption et le désespoir. Ne nous endormons pas dans une médiocrité trompeuse, car le jugement sera strict. Mais si nous avons le courage de nous purifier maintenant, la crainte actuelle de n'être pas assez pur nous épargnera la terreur du dernier jour. Certes, quand nous songeons que notre éternité dépend de l'instant où nous rencontrerons le Seigneur, nous ne pouvons d'abord qu'éprouver un sentiment de crainte. Nous redisons avec le psalmiste « Si vous tenez compte de nos iniquités, Seigneur, qui pourra soutenir votre regard ?» Troublés par le souvenir des péchés dont nous espérons pourtant avoir obtenu le pardon, nous n'appréhendons pas moins les reproches que nous mériterons nos innombrables infidélités à la grâce. Le Maître, si bon, était en droit d'attendre de nous une sainteté de vie qui aurait étendu son règne sur la terre. Quels serviteurs négligents nous aurons été, rechignant à la besogne, bâclant notre ouvrage, trouvant toujours que nous en avons fait assez pour lui. Enfin, ce qui achève de nous confondre, c'est notre intime persuasion que nous ne parviendrons jamais ni à expier dûment nos fautes, ni à compenser le temps perdu et les grâces refusées. Heureusement, l'apôtre nous détourne de ces conclusions découragées en nous arrachant à l'exclusive considération de nous-mêmes. Jésus-Christ est là, qui nous affermira jusqu'à la fin. Demain, il sera notre juge. Aujourd'hui, il est notre avocat auprès du Père. Hébreux, chapitre 7, verset 25. Il est encore pour nous le Sauveur. Les reproches qui nous vaudraient les sanctions du juge, il nous les adresse maintenant avec toute l'affection d'un frère aîné. « Venez à moi, nous dit-il, vous qui peinez et qui ployez sous votre fardeau, je vous soulagerai. Nous n'avons pas d'ami plus cher, plus secourable, plus puissant que le Christ qui nous jugera. Et c'est pourquoi nous allons présenter à Dieu le sacrifice que Jésus offrit sur la croix pour la rémission des péchés d'une multitude. » Les pièces proprement sacrificielles de cette messe méritent une attention particulière. Remarquez d'abord l'antienne de l'offertoire. Elle évoque le sacrifice qui avait scellé l'ancienne alliance entre Dieu et le peuple élu. Après que celui-ci se fut engagé à observer les préceptes de la loi, Moïse l'avait aspergé avec le sang des victimes répandues sur l'autel en disant « Voici le sang de l'alliance que Yahvé a conclu avec vous sur toutes ses paroles. » Il est permis de regretter que le missel actuel et conserver seulement le début de l'ancien chant offertorial, tandis que l'assistance reprenait le refrain. Alors Moïse accomplit le sacrifice du soir. Les chantres évoquaient deux circonstances dans lesquelles la prière du patriarche avait été exaucée. L'une où son intercession avait obtenu le pardon pour les enfants d'Israël, qui, au lendemain du contrat d'alliance, oublieux de leurs promesses, avait fabriqué et adoré un veau d'or. L'autre, où Moïse, encouragé par la familiarité dont le Seigneur en usait à son égard, s'enhardit jusqu'à solliciter le privilège de le contempler à découvert. Aucun homme ne saurait y prétendre dans cette vie. Néanmoins, Yahvé lui accorda de contempler de dos le reflet de sa gloire. à quel point la liturgie est imprégnée de souvenirs bibliques qui facilitent l'intelligence du culte chrétien. Cet offertoire en fournit un exemple. Une nouvelle et éternelle alliance a supplanté la première. Elle unit à Dieu un nouveau peuple aux dimensions de l'univers et dont les membres promettent au Seigneur d'obéir à la loi parfaite de l'Évangile. Elle aussi fut scellée dans le sang d'un sacrifice, mais cette fois dans le sang que Jésus-Christ a versé sur la croix. À combien plus forte raison écrit saint Paul, le sang du Christ qui, dans son esprit, qui dans un esprit d'éternité s'est offert à Dieu, étant lui-même sans tache, vous purifiera-t-il de vos péchés pour vous permettre de rendre un culte au Dieu vivant. Hébreux, chapitre 9, verset 14. Or, pour perpétuer et appliquer à toutes les générations les mérites acquis par lui sur le calvaire, Jésus a institué au soir de sa vie le sacrifice eucharistique. Plus que les holocaustes offerts par Moïse, l'oblation que l'Église fait du sang de la rédemption opérera-t-elle la rémission des péchés de la multitude? Notre messe, enfin, anticipation et gage de la parousie, si elle ne nous manifeste pas à nu la gloire du Christ, est pour nous, comme autrefois pour Moïse, le passage du Seigneur. Quoique caché à nos yeux sous le sacrement, il est le même qui apparaîtra au dernier jour pour introduire ses élus dans le royaume du Père. Cette assurance est renouvelée en termes émouvants dans le texte de la prière sur les offrandes, l'une des plus belles secrètes du missel qu'on lit aussi le quatrième dimanche après Pâques. Le pain et le vin que nous avons déposés sur l'autel, devenus après les paroles consécratoires le corps et le sang de Jésus-Christ, nous rendent capables d'effectuer les plus augustes échanges, veneranda commercia. Le Père recevra de nos mains cette offrande divine et nous y fera participer. Mais en offrant à Dieu le prix même de notre rachat, nous devons nous offrir avec lui. Nous offrons Jésus vivant en nous, ce qui suppose que notre volonté soit intimement unie à la sienne, et c'est l'objet de l'oraison. Connaissant cette vérité de foi, il convient que notre conduite s'accorde avec la dignité de Fils de Dieu que confirme en nous la réception du sacrement. Aussi, supplions-nous le Seigneur de nous établir dans une exacte conformité, dignis moribus, avec la sainteté de son Fils unique. Le verset du psaume chanté pendant la communion nous transporte au jour de la parousie. On croirait entendre le cantique triomphal que nous chanterons en arrivant à la maison du Seigneur. Portez ces hosties, encore vivantes dans vos poitrines, et entrez dans les parvis de l'Éternel. Prosternez-vous devant le Seigneur dans les splendeurs de son palais. Toutes les fois que nous communions, nous répétons notre entrée au ciel. Un chrétien, disait Hosanna, doit toujours être prêt à communier et à mourir. Dans l'un et l'autre cas, en effet, il s'agit de rencontrer le Seigneur. Le fondateur des conférences de saint Vincent de Paul ne voulait pas dire que cette rencontre puisse être envisagée à la légère, pas plus celle de la communion que celle de la mort. Comme dans ses derniers jours, il lui arrivait de pleurer au souvenir de ses péchés, une voix amie l'interrompit. « Êtes-vous donc un si grand pécheur ?» Hosanna repartit aussitôt. « Enfant, vous ne savez pas ce qu'est la sainteté de Dieu. » Cependant, au prêtre qui l'assistait à son lit de mort et lui recommandait de se confier sans crainte à la bonté de Dieu, il répondit « Comment le craindrais-je? Je l'aime tant. » Nous ne devons sous-estimer ni notre culpabilité, ni les saintes exigences de Dieu. Nous ne saurions être trop sévères pour nous-mêmes, mais ce serait nous charger davantage que ne point nous fier à l'amour de Dieu. Et comment à la fois rétracter nos fautes et nous livrer à l'amour de celui que nous avons offensé, sinon en recourant dans la Sainte Eucharistie à la médiation de Jésus. À la condition toutefois de préparer sérieusement et posément chacune de nos rencontres sacramentelles avec Jésus-Christ. C'est justement le thème de la dernière oraison de cette messe, guide excellent dans la prière silencieuse qui suit nos communions. D'abord, un cri d'immense gratitude. Nous vous rendons grâce, Seigneur, qui nous avez vivifiés par le don de votre saint corps. Puis, nous sollicitons de sa miséricorde qu'il daigne nous rendre lui-même de plus en plus dignes de prendre part à son repas. Nous ne sommes et ne serons jamais dignes de communier. Nous ne sommes pas moins indignes de l'éternité divine qui nous est réservée. Prenons du moins le moyen que le Seigneur nous propose pour atteindre notre destinée. Unissons-nous au sacrifice de la messe de mieux en mieux compris par des communions de mieux en mieux préparées. Notre Sauveur fera le reste. Il saura purifier nos consciences et changer notre cœur.